À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, en ce vendredi 13 novembre 2020, la liberté d'expression sur la crête de la démocratie. La liberté d'expression sur la crête de la démocratie, la liberté d'expression qui définit peut-être la ligne de crête de la démocratie. L'image de la crête, c'est d'abord celle de la limite. Il y a des dangers des deux côtés, mais tout va bien, on ne tombera pas si l'on ne se trompe pas de chemin, si l'on ne se trompe pas de limite, si l'on définit bien, sans se tromper, les limites de la liberté d'expression qui définissent le cadre de la démocratie. Nous en parlons ce soir avec Marilyn Maezo, professeure de philosophie, auteure récemment des Conspirateurs du silence aux éditions de l'Observatoire, et avec Charles Girard, maître de conférence de philosophie à l'Université de Lyon, auteur notamment de Délibérer entre égaux, une enquête sur l'idéal démocratique. La liberté d'expression et ses limites sur la crête de la démocratie. Je suis très heureux d'en parler avec vous deux, Marilyn Maezo, Charles Girard. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Frédéric Worms.
À tous les deux. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ma présentation. Bien sûr, nous sommes un vendredi 13 novembre. Nous pensons à des attentats, certains qui ont eu lieu il y a exactement 5 ans aujourd'hui, d'autres plus récemment. Nous allons essayer de réfléchir sur la liberté d'expression et ses limites. Il y a certainement un lien avec ces événements, y compris les plus récents. Vous avez écrit l'un et l'autre un article, l'un et l'autre à bientôt apparaître. Chacun porte aussi la marque d'une émotion, se formule sous une forme de question. Je voulais vous demander à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, d'abord, au fond, cette question de la liberté d'expression, c'est pas une question abstraite, elle peut donner lieu à ces actes terribles. Quelle est l'émotion que vous ressentez en ce moment vis-à-vis de cette question quant au présent? Marilyn Maezo, par exemple, pour commencer, vous-même qui publiez bientôt un article dans l'Express à ce sujet, que vous m'avez permis de lire.
Pour être tout à fait honnête, j'avoue que je ressens quand même un certain malaise du fait qu'on pose à nouveau la question des limites de la liberté d'expression, spécifiquement dans ce contexte-là. Je m'explique. Le problème, ça n'est pas de questionner les limites de la liberté d'expression, ça on le fait tout le temps. Ce qui me semble quand même assez problématique, c'est qu'on le fasse dans un registre qui consiste à dire... Des dessins ont provoqué, si on n'avait pas montré ces dessins, ça ne se serait pas produit. Mmh. Je pense notamment à l'attentat qui a coûté la vie à mon collègue Samuel Paty. Ça, c'est quelque chose qui effectivement me trouble un peu, que dans un contexte où non seulement un professeur se fait décapiter, mais ensuite, ça a été le cas pour des écoliers au Cameroun, pour des étudiants à Kaboul, récemment au Mozambique, 50 personnes ont subi le même sort. Qu'on focalise dans ce moment précis, dans les quelques jours en fait, où il est question de terrorisme, qu'on focalise l'attention sur les limites de la liberté d'expression, est-on allé trop loin en montrant ces caricatures, comme si finalement il y avait un lien de cause à effet entre les deux, alors que le terrorisme frappe sans aucun lien avec ça à peu près partout dans le monde, c'est quelque chose qui m'a troublée. Oui. Cela étant dit, je pense qu'il est quand même nécessaire de questionner la liberté d'expression, non pas forcément par rapport au terrorisme, mais plutôt par rapport à la manière dont on réagit au terrorisme.
Mais justement, Marilyn Maezo, j'ai été très frappé en lisant cet article, un peu à l'avance, puisqu'il n'est pas encore paru, par ce repère que vous trouvez dans une forme d'émotion aussi. On peut questionner les limites, on va le faire d'une façon philosophique, avec vous deux qui enseignez la philosophie. Quelles sont les bonnes, les mauvaises limites, les limites qui transgressent la liberté d'expression, qu'on veut lui imposer de l'extérieur, celles qu'elle doit s'imposer de l'intérieur. Mais ce critère de l'émotion, du contexte, finalement, respecter d'abord un certain contexte, pour vous, c'est une vraie boussole déjà, au fond, éthique, politique.
En fait, il y a deux, je pense qu'il faut distinguer deux aspects. Effectivement, la question de l'affect est centrale, ne serait-ce que parce que la notion de blessure a été évoquée pour à la fois qualifier ce qui est arrivé aux victimes et à la fois qualifier ce qu'on peut ressentir face aux caricatures du prophète. Donc, si vous voulez, le fait d'utiliser un même vocabulaire, même un même terme, pour désigner d'un côté des personnes qui subissent, enfin qui meurent sous les coups des terroristes et des personnes qui sont choquées par un dessin, ça s'interroge. Ça, c'était le premier point. Mais d'autre part, c'est pas simplement une question d'émotion. Je ne dis pas que parce que qu'un attentat vient d'avoir lieu, il faut d'un seul coup arrêter de débattre et qu'il y a des questions qu'on ne doit pas poser. Au contraire, c'est sur un plan vraiment intellectuel que je me situe, un plan, je crois, philosophique. Lorsque je dis que ça n'est pas anodin, et je le dis par exemple au sujet de la première sortie du ministre Justin Trudeau au Canada, qui a expliqué que la liberté d'expression ne devait pas mener à blesser inutilement. Je disais que tenir cette parole dans un contexte lambda et la tenir dans un contexte où justement la liberté d'expression est sur le banc des accusés alors que des personnes viennent d'être assassinées dans le cadre d'un attentat, c'est pas anodin, si vous voulez. C'est ce geste-là que je veux questionner. Pas pour des raisons affectives, mais pour des raisons vraiment intellectuelles, parce que je pense que ça n'est pas du tout quelque chose de neutre.
Oui, oui, par émotion, je voulais pas seulement dire effectivement quelque chose d'arbitraire ou de subjectif, mais disons un lien entre un principe, un événement, un contexte et ce qui pousse aussi à réfléchir. Charles Girard, de votre côté, vous m'avez aussi fait lire un article synthétique très important, à mon avis, issu un peu de ce contexte en ce moment. Cet article s'intitule, sauf erreur, « Pourquoi a-t-on le droit d'offenser ?» On va revenir sur ces distinctions, là aussi, sur la distinction entre l'offense, la haine, les limites à la liberté d'expression. J'ai eu l'impression en vous lisant que vous aussi, cette question, déjà le formuler sous forme de question, c'était aussi une forme de réaction, alors peut-être pas affective, mais en tout cas très, très contextuelle, très, très contemporaine. C'est une question de ce moment que nous vivons, Charles Girard.
Bah, ça serait difficile de l'aborder autrement aujourd'hui. Vous demandiez quelle émotion. Je pense que c'est des émotions tout à fait banales et partagées. Que nous pouvons éprouver depuis Conflans, le 16 octobre, mais aussi après l'attaque devant les locaux de Charlie Hebdo à la fin du mois de septembre, et puis face aux autres attaques qui ont eu lieu depuis et qui ne visaient pas du tout spécifiquement la liberté d'expression, et qui n'avaient aucun rapport avec les caricatures à la Basilique de Nice, à Vienne, et y compris hors de l'Europe. Donc il y a une forme de non pas d'abattement, mais de tristesse, oui, de désolation, à voir que cette grande campagne de terreur menée par au niveau mondial par le terrorisme djihadiste depuis de nombreuses années continue de semer la mort, continue d'essayer de terroriser, et continue aussi d'aviver des tensions qui sont très profondes, bon, à la fois sur le plan international, on l'a vu ces derniers jours et semaines, mais aussi au niveau de la sphère publique nationale. C'est-à-dire que ce sont des débats qui inévitablement relancent, à propos de la liberté d'expression notamment, mais pas seulement à propos de la liberté d'expression, qui encore une fois n'est pas le seul enjeu lié aux attentats, des controverses publiques très vives, très véhémentes, dont on peut regretter bien sûr qu'on les tienne dans ce contexte-là, mais qui à mon avis sont inévitables et auxquelles il faut faire face calmement. Et en même temps, créer ces mêmes attentats créent un climat et des circonstances dans lesquelles il est extrêmement difficile d'avoir des disputes lucides à ce sujet. On a vu, mais c'est pas nouveau là encore, même si c'était peut-être particulièrement fort du fait de la répétition suite à l'assassinat et à la décapitation de Samuel Paty, la tentation d'un certain raidissement symbolique qui en vient à héroïser, à sacraliser des principes comme si c'était des valeurs spécifiquement nationales. La tentation aussi d'embrigader ce principe dans toutes sortes de nouveaux conflits civils où on veut débusquer ceux qui seraient d'un côté les complices intellectuels, de l'autre les alliés objectifs du terrorisme dans les partis, les médias, les universités, la société civile, avec une espèce d'effort d'intimidation qui vise à faire taire ceux avec lesquels on est en désaccord, notamment à propos de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression.
Mais justement,
qui consiste à céder en fait, c'est-à-dire qui consiste à accepter de restreindre les limites de la liberté d'expression, soit carrément en appelant à la redéfinir pour réintroduire quelque chose comme délit de blasphème, soit en appelant de manière plus ou moins directe à des formes d'autocensure. Et donc il me semble qu'il faut résister à tout ça, même si le climat le rend très difficile et que les affects qui nous assaillent tous le rendent très difficile. Il faut résister d'abord à la menace violente, à la menace de mort. Il faut résister intellectuellement aussi aux invocations martiales, dogmatiques de la liberté d'expression ou de ces autres principes démocratiques. Et puis, il faut résister à une forme de relativisme acritique qui est prêt à admettre que, parce que parfois on les instrumentalise, ces principes, au fond, seraient des prétextes au service d'autres fins. Donc, il faut simplement réaffirmer le besoin de réfléchir et de débattre, parce que nous ne sommes pas d'accord, surtout en tout cas, sur le sens de la liberté d'expression, sur ses limites, et sur les raisons pour lesquelles on accepte que Elle puisse aussi avoir des effets déplaisants, désagréables pour les uns ou pour les autres.
Mais alors, justement, Charles Girard, vous avez dit il y a beaucoup d'autres motifs aux attentats terroristes, aux violences d'aujourd'hui, c'est certain. Il y a des conflits géopolitiques, il y a des enjeux religieux d'ordre généraux, il y a l'instrumentalisation des uns au profit des autres. Mais on a quand même l'impression, en vous entendant, que la liberté d'expression n'est pas un parmi d'autres. C'est quand même le cœur de tout le débat, c'est quand même un point critique. Est-ce que vous pouvez nous dire d'un mot pourquoi est-ce que vous pensez que ça se cristallise à ce point autour de la liberté d'expression, comme si c'était un champ de bataille finalement, comme si c'était devenu, avant d'être l'objet de réflexion qu'on va y retrouver ensemble ce soir, un champ de bataille, un des premières lignes de front de ces combats d'aujourd'hui?
Alors il faut, il y a deux choses distinctes, je pense qu'il faut tenir ensemble. La première, c'est que ce n'est pas du tout le seul point de cristallisation. On sait que les attentats dont nous fêtons, si j'ose dire, le sinistre anniversaire aujourd'hui, dont nous célébrons le souvenir, ne concernaient pas directement la liberté d'expression. C'est pas ça qui était visé au Stade de France, au Bataclan. C'est pas ça qui était visé à Nice. C'est pas ça qui était visé à Vienne. Et il faut aussi souligner que ce qui apparaît comme ayant été provoqué par la liberté d'expression ne l'a pas été directement. On sait que l'assassin de Samuel Paty, c'est apparu dans plusieurs écrits de presse, était à la recherche de victimes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, bien avant que la polémique déclenchée par un parent d'élève et un prédicateur islamiste l'expose comme cible. Donc on est pris dans une attaque très générale qui dépasse la France, qui dépasse l'Europe, même si c'est l'un des terrains, et que la France notamment est l'un des terrains qui a été les plus frappés en Europe, mais qui s'est abattu sur les autres continents aussi, et qui met aux prises une vision fanatique d'une certaine interprétation de l'islam avec tous les autres, avec les musulmans qui n'y adhèrent pas, avec les mécréants. Et donc la liberté d'expression là-dedans est un enjeu qui est important, mais je pense que c'est important de ne pas de remettre ce contexte pour ne pas tout y assimiler.
C'est vrai, je pense que vous avez tout à fait raison, mais malgré tout, on a quand même l'impression que vous qui en faites aussi, disons, le cœur vivant de la démocratie, tous ces conflits, toutes ces transgressions du débat, que ce sont toujours des actes terroristes, ils renvoient toujours, malgré tout, au refus de la discussion, au refus de la position de l'autre, et finalement, quand même, malgré tout, la liberté d'expression reste l'enjeu emblématique, finalement, qui à la fois doit nous protéger contre le terrorisme, et que le terrorisme vient toujours ébranler. Je crois que peut-être c'est trop général, mais comme cadre général, après il faut la préciser.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des liens entre la liberté d'expression qui était explicitement visée comme symbole dans l'attentat du 7 janvier 2015 qui a conduit au massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Et ce qui est visé dans le meurtre de Samuel Paty, qui n'est pas exactement la liberté d'expression. Enfin, c'est un enjeu, puisqu'il s'agissait supposément de venger le prophète, et que des menaces ont été proférées par l'assassin après qu'il ait commis son crime, incitant les autres à ne pas montrer ses dessins, à ne pas faire de même. Mais le symbole qui est visé, là, s'il y a un symbole, c'est celui de l'école. Donc c'est autre chose. C'est la liberté d'enseigner qui est une composante ou une condition de l'instruction publique.
Voilà.
Et bien sûr, il y a un lien entre les deux, entre la liberté d'expression, entre l'instruction publique, entre de manière générale les différentes composantes d'un droit laïque qui affirme à la fois la possibilité de la critique de la religion et en même temps la liberté de conscience pour tous, il y a la possibilité d'un exercice critique de la raison non soumis à des dogmes absolus, qui est au cœur de ce qui est visé. Oui, ça ne fait aucun doute, je pense.
Marie-Lise Maezo, vous-même qui avez non seulement travaillé sur Albert Camus, mais qui êtes imprégnée de sa pensée, qui, de mon point de vue aussi, dans vos travaux récents, reprenez sa pratique. Est-ce que vous ne pensez pas, vous aussi, que le terrorisme est toujours finalement lié à la question du dialogue, à la question de la capacité à discuter ou pas, à ses limites, à ses transgressions? Et finalement, est-ce que vous voyez, vous aussi, un peu, même si, en effet, ce n'est pas toujours ce principe qui est visé par l'acte terroriste, quand même toujours c'est un lien entre la capacité des humains à dialoguer, même dans le désaccord, et sa transgression par des actes de violence de ce genre.
Oui, je rejoins totalement mon collègue sur la question des motifs et des mobiles explicites des terroristes. Mais la question que vous posez, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'elle porte plus sur, disons, un cadre plus général et pas forcément conscient. Vous avez fait référence à Albert Camus. Ce que vous disiez à l'instant me rappelle l'article qu'il a donné à Combat en 1948, intitulé « Le siècle de la peur », où il explique justement, il a cette phrase que je trouve extrêmement forte, il dit « Un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur ». Un homme qu'on ne peut pas persuader, ça veut dire dans sa bouche un homme avec qui on ne peut pas dialoguer. À partir du moment où on ne considère plus l'autre comme un interlocuteur possible, mais comme un ennemi à abattre, si vous voulez, la violence devient le seul recours possible. Mais plus globalement, quand vous avez posé la question de savoir si la liberté d'expression n'était pas toujours au fond présente d'une manière ou d'une autre derrière ces manifestations de violence. Ça me rappelle aussi que dans ce même texte, Le siècle de la peur, Camus explique ce que c'est que vivre dans la terreur. Parce que la terreur, c'est pas simplement l'acte terroriste en lui-même, c'est aussi l'atmosphère que cet acte terroriste impose à la population qui le subit. Et ce que dit Camus, c'est que pour sortir de la terreur, il faudrait pouvoir réfléchir et agir suivant la réflexion, mais que la terreur, justement, ça n'est pas un climat favorable à la réflexion. Donc je pense que sans faire de parallèle hasardeux, c'est pas anodin que un contexte de violence extrême soit un contexte qui n'est pas propice, comme on l'a dit, à une discussion de fond, où on rappelle les principes, où on accepte le désaccord, mais plutôt à une polémique où chacun s'échappe avec les s'écharpe pardon avec les autres, où on cherche des coupables et on essaye de créer une sorte de guerre intellectuelle qui serait un écho malheureux de la guerre des armes. Donc je pense que c'est effectivement une chose très importante. La dernière chose que je voudrais souligner en écho à ce qu'a dit mon collègue, parce que ça me tient à cœur, c'est qu'effectivement Samuel Paty, il faut le rappeler, était déjà une cible potentielle avant même qu'il ait montré les caricatures. Rappelons que l'État islamiste a nommé parmi ses cibles explicites les professeurs et l'école. Pourquoi ? Parce que l'école est le lieu par excellence de l'apprentissage de l'esprit critique et contre toute forme de dogmatisme imposé, et que quand votre objectif c'est d'imposer un dogme par la force, l'école ne peut pas être un lieu que vous considérez comme un lieu propice.
Alors on va revenir dans un instant malgré tout avec vous deux, Marilyn Maezo et Charles Girard, sur la liberté d'expression comme telle. Pourquoi le débat autour des caricatures fait ressurgir la question de ses limites ? Est-ce qu'elles sont définies de l'intérieur par la loi ? Est-ce que d'autres critères peuvent parfois intervenir ? Des critères moraux, les offenses, les blessures, des critères religieux ou autres ? Mais avant d'y venir, Marilyn Maezo, je voudrais prolonger un instant ce que vous disiez. Vous avez au fond déjà donné presque votre critère, là aussi très très camusien, très simple, c'est-à-dire au fond le critère c'est de pouvoir se parler, de ne pas tomber dans la polémique. Dans votre livre Les conspirateurs du silence, la notion de polémique est chargée négativement. Au fond, c'est presque déjà la guerre pour vous, la polémique. D'ailleurs, le mot polémique vient du mot guerre en grec, mais malgré tout, on a l'impression que pour vous, au fond, il y a une pathologie de la liberté d'expression qui est déjà très sensible quand on se met à entrer dans la polémique. La polémique, c'est déjà l'insulte, c'est déjà l'invective pour vous, Marilyn Maezo ?
Alors justement, je pense qu'il faut préciser ici le sens que je donne au mot polémique. Je donne vraiment le sens que Camus donne à ce mot dans un texte de 1949 qui s'intitule « Le témoin de la liberté », où il explique ce qu'il appelle le mécanisme de la polémique. Je ne suis pas du tout en train de parler de ce qu'on appelle plus communément la polémique ou les polémistes sur les plateaux, puisque la polémique en soi peut être un art oratoire qui peut avoir son intérêt.
Qui a une grande histoire dans l'histoire. Voilà, qui a une très grande histoire.
C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Camus, par polémique, je pense que justement, il ramène la polémique au sens étymologique du terme, et ce qu'il entend par là, c'est une logique en fait où, comme il le dit, ça consiste à simplifier l'adversaire, par conséquent à refuser de le voir. Mmh. Et il termine en disant « Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard ». Et il dit que, devenu aux trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi des hommes, mais dans un monde de silhouettes. Ces mots qu'il utilise pour décrire ce qu'il appelle la polémique, moi, ça me fait penser très vivement à ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux ou sur certains plateaux médiatiques, où le but n'est pas de débattre, c'est-à-dire de poser argument contre argument et de se focaliser sur le fond, mais de réussir à catégoriser ou à étiqueter le plus vite possible la personne qu'on a en face de soi pour la délégitimer a priori en tant qu'interlocuteur légitime. Et ça, c'est un mécanisme effectivement qui rend impossible tout débat.
Alors ça, j'ai vraiment l'impression que c'est votre critère fondamental. On reviendra sur la manière dont vous l'appliquez à divers débats contemporains. On reviendra aussi dans un instant sur vraiment la question des limites internes de la liberté d'expression au sens le plus strict. Mais on va d'abord écouter un morceau de musique proposé par Charles Girard et qui nous expliquera pourquoi après qu'on l'ait un peu entendu.
Freedom of speech, motherfucker. Okay. Something for the kids. Step in the club smoothly, with the L in my hand. Bitches know that I'm a freak, like the Elephant Man. Intelligent plans, fuck a record deal. I want development land with my benevolent clan. And that's the reason that I only trust my fam. 40,000 records sold, 400 grand. Fuck a middleman, I won't pay anyone else. I'll bootleg it and sell it to the streets myself. I'd rather be that than signed and stuck on a shelf. And because of this, executives try to diss me. Racism frozen in time like Walt Disney. And now they say they wanna get me signed to the majors. If I switch up my politics and change my behavior, trying to tell me what the rhyme about over the beat. Bitch niggas that never spent a day in the street. But I repeat that, nobody can hold my reins. I put the truth on tracks, niggas, simple and plain. I guess to America, I'm a disaster. Oh, no. A slave that was destined to own his masters. Independent in every single sense of the word. I say what I want, you fucking little sensitive herb. This is America. I thought we had freedom of speech, but now you wanna try to control the way that I speak.
And France Culture,
à présent.
Frédéric Borns.
But a motherfucking racist bitch, full of hatred.
À présent, ce soir, la liberté d'expression sur la crête de la démocratie avec Marilyn Maezo et Charles Girard. Charles Girard qui nous propose la musique que nous sommes en train d'entendre, un morceau étonnant intitulé « Freedom of Speech » par Immortal Technique. Charles Girard, avant que vous nous expliquiez d'une manière très rigoureuse et précise, comme vous le faites toujours, les critères de la liberté d'expression, les limites internes, les transgressions abusives et les mauvais critères, pourquoi ce morceau, le titre est évidemment lié, mais qu'est-ce que vous entendez dans cette « Freedom of Speech » Charles Girard?
Bah, donc c'est un morceau qui procède à la mise en scène ou à la mise en abîme habituelle ou fréquente en tout cas dans de nombreux morceaux de rap de la recherche d'indépendance du chanteur, du rappeur en question. Mm-hmm. Mais c'est une interprétation, ça met en scène une tension intéressante et récurrente dans les approches de la liberté d'expression, que ce soit sur le plan artistique, intellectuel, moral, culturel, politique, qui est qu'en fait, si on conçoit la liberté d'expression comme un instrument ou une condition nécessaire de l'acquisition d'une forme d'autonomie et d'indépendance de la pensée, alors, ce qui peut faire obstacle à cette indépendance est multiple. C'est la censure d'État, bien sûr, c'est le gouvernement qui interdit, mais c'est aussi les pressions économiques, la crainte de se faire acheter oui. Par celui qui pourrait acheter votre œuvre. Et puis c'est aussi l'exposition à une forme d'intimidation, de pression sociale, de critique, qui peut être prise, même si elle est d'une nature absolument entièrement différente, incomparable avec la censure légale, avec la censure étatique, comme mettant aussi en péril l'aptitude de chacun à s'exprimer librement, pas juste au sens de dire ce qu'on veut dire, mais au sens de choisir ce qu'on veut dire, d'être l'auteur de sa propre pensée.
Dire ce qu'on pense complètement quand même.
Dire ce qu'on pense complètement, mais aussi réussir à penser ce qu'on pense sans que ce soit à cause de la pression ou de l'inclination que nous donne un dogme étatique, un pouvoir économique, ou le conformisme social.
Et donc le rap, là, ce qu'on vient d'entendre, pour vous, c'est la mise en scène de cette libération de la parole en acte dans la musique.
Oui, c'est pas du tout propre au rap d'ailleurs, mais notamment, bien sûr,
ouais.
Avec une mise en scène d'un vocable provocant, d'une attitude provocante qui vise justement à montrer et à tester jusqu'où peuvent aller les limites, à la fois de ce qui passera les bornes de la censure, mais aussi de l'acceptabilité, ce qui est susceptible de heurter le public ou différents publics.
Mais alors justement, Charles Girard, vous qui enseignez ces questions à l'Université de Lyon, qui dirigez aussi un programme de recherche sur la liberté d'expression et l'égalité de participation, il y a un jeu avec les limites qui est légitime, qui est parfois parfois quand même frôle la transgression. On le voit dans les œuvres d'art, hein, dans tous les domaines. Et la caricature au bord du politique est quand même aussi une expression artistique. Comment est-ce qu'on peut distinguer, au fond, ce qui transgresse au point de devoir être interdit par la loi, ce qui joue avec la limite, au contraire, pour nous faire réfléchir et pour faire progresser l'émancipation collective, pas seulement des uns contre les autres, mais de tous? Est-ce qu'on a des critères suffisants pour justement se repérer dans ces limites cruciales de la vie démocratique, c'est-à-dire de la vie humaine tout court?
Oui, je pense qu'on en a, même si là encore, c'est un objet de discussion, de désaccord philosophique et de désaccord politique, et c'est naturel. Mais la liberté d'expression s'entend en de nombreux sens. On n'a pas exactement la même en France, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, aux États-Unis, dans les grands textes internationaux des droits de l'homme. Il y a différentes interprétations de ce principe. Mais en son fond, il y a un principe commun qu'on retrouve, qui est là dans la déclaration de 1789 en France, dans le Bill of Rights américain, dans la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'idée que chacun doit être libre de communiquer publiquement. Mmh. Ça veut dire à la fois s'exprimer, mais aussi recevoir, entendre, avoir accès à. Chacun doit être libre de communiquer publiquement les opinions et, dit-on désormais au XXe siècle, aussi les informations.
Oui, vous rajoutez.
Ce qui veut dire que la limite, du coup, ne peut pas être fixée par le contenu ou la nature des opinions. Ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on pense, mmh, qui peut justifier en soi que l'État place une borne à la capacité individuelle à participer à cette communication publique. Mmh. Et c'est pas du tout anodin ou trivial de dire ça, parce que exprimer des opinions, c'est agir sur autrui, c'est affecter autrui. C'est inciter à croire ou à arrêter de croire, c'est essayer de convaincre, de dissuader, de tromper, de flatter, de charmer, d'apaiser, de provoquer. Et donc accepter on donne à chacun le droit de participer à cet effort de communication et d'entre-conviction sans poser de limites qui soient liées au contenu des opinions, mmh, ben c'est forcément accepter qu'on puisse être heurté, choqué, ou se sentir profondément blessé ou offensé par les idées qui sont échangées.
Oui, donc ce que vous voulez dire, Charles Girard, et je reviens vers Marilyn Maizeau dans un instant, c'est que au fond, la loi va distinguer entre le contenu des opinions qui est toujours communicable, et puis ce qui est interdit, ça va être plutôt des actes, au-delà de l'opinion, par exemple l'incitation à la haine, mais comme vous venez de le dire, comme une opinion est toujours aussi un peu un acte, et comment est-ce qu'on va distinguer entre l'incitation à des actes qui vont être interdites comme telles, qui va être interdite par la loi, certains actes criminels en particulier, et des opinions qui ne sont jamais totalement des idées abstraites, qui sont toujours aussi prises dans ces relations concrètes? Est-ce que c'est pas là l'enjeu crucial de la limite interne de la liberté d'opinion, dire et d'expression, finalement, arriver à distinguer entre un contenu et un effet? Un effet qui, dans certains cas, doit quand même être conduire à l'interdiction. Charles Girard.
Alors, c'est évidemment l'enjeu principal, mais la frontière qui peut paraître abstraite ou difficile à tracer est en fait très nette conceptuellement. Alors après, face à un discours particulier, à des images, à des paroles, à un geste, il y a un effort d'interprétation. On peut se demander de quel côté de la barrière ça tombe. Mais la distinction entre, par exemple, puisque vous preniez cet exemple, ce qui relève simplement de l'offense, de la sensibilité blessée, du fait d'être choqué, parfois profondément, douloureusement, d'un côté, et de l'autre côté, ce qui relève de ce qu'on appelle souvent les discours de haine, cette distinction, elle est très très nette. Ce qu'on appelle discours de haine, c'est une catégorie de la doctrine, c'est-à-dire de la science qui étudie le droit plus que du droit lui-même. Mm-hmm. En France, concrètement, depuis le début des années 70, on peut être puni pour injure publique raciste, pour diffamation raciste ou pour incitation à la haine raciste. Et ces catégories, elles ont un sens très précis, contrairement à ce qu'on entend souvent dans leur usage dans la sphère publique, on a l'impression que c'est quelque chose qui est haineux, qui exprime de l'agressivité. C'est quelque chose de beaucoup plus précis dont on parle. Mm-hmm. Ce sont des discours qui identifient des personnes ou des groupes de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, alors supposée par le discours raciste, hein, mm-hmm, à une race, à une religion, à une nation ou à une ethnie. Et donc ce sont des discours qui désignent des individus ou des groupes d'individus en les désignant par l'un de ces critères de façon essentialisante, en les ramenant à cela, les juifs, les musulmans, les noirs, et qui sur cette base tiennent des propos injurieux, donc les outragent publiquement, mmh. ou les diffament, portent atteinte à leur réputation, à leur considération, ou encore incitent à la haine, à la violence, à la discrimination à leur égard. Donc pour le dire simplement, ces limites qui existent en France, qui n'existent pas partout, par exemple elles n'existent pas aux États-Unis, mais elles existent dans la plupart des démocraties constitutionnelles, aujourd'hui, mm-hmm. Ces limites ne punissent pas du tout, ne sanctionnent pas du tout une atteinte à la sensibilité des gens qui sont mm-hmm. visés. Ce ne sont pas les personnes qui sont visées par les discours racistes, qui sont victimes des discours racistes, ce n'est pas leur sensibilité qui est en jeu. C'est leur considération sociale. C'est leur dignité sociale.
C'est la façon dont on les désigne et dans cette désignation, on conduit déjà...
Dont on les désigne, dont on les cherche à les humilier ou à les avilir en public, mm-hmm. parfois en les bestialisant, ou la façon dont on incite autrui à se provoquer, à se comporter mm-hmm. à leur égard comme étant digne de comportements discriminatoires, violents, avilissants. Donc ce qui est en jeu, pour le dire simplement, c'est la mm-hmm. dignité des personnes qui est visée, leur dignité sociale, ça n'est pas leur sensibilité ou évidemment leur croyance. C'est-à-dire que le mal du discours raciste qui est reconnu par le droit et qui est puni par le droit n'a rien à voir avec ce que peuvent croire ou ne pas croire par ailleurs sur les plans politiques, moraux ou religieux les personnes qui sont visées.
C'est très...
Par nature, c'est quelque chose de très très différent de l'offense au sentiment religieux ou à la sensibilité morale.
Charles Girard, merci, c'est très précis cette définition. Marie-Lyne Maezo, de votre côté, est-ce que vous y reconnaissez les soubassements de votre pratique dans votre livre, dans vos interventions publiques? On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la différence entre une théorie générale et une intervention dans un débat à travers vos articles, les chapitres du livre. Vous aussi, vous faites de l'essentialisation un enjeu majeur de la violence rhétorique, de la violence dans le débat public. Est-ce que pour vous, la limite entre cette essentialisation qui catégorise les individus et l'affect, la blessure, l'offense, est-ce qu'elle est pour vous claire, comme Charles Girard vient de le souligner ?
Je rejoins totalement Charles Girard sur ses principes, en fait, mmh. hein, sur ce qu'il vient de dire. Mais ce qui me frappe, justement, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre les principes qui sont d'une clarté intellectuelle et conceptuelle parfaite, oui. et la pratique, c'est-à-dire la manière dont les choses se passent, en fait, dans le débat public, où là, c'est plutôt la confusion qui a tendance à régner bien souvent, en particulier quand il s'agit de débats sur des questions particulièrement sensibles. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit concernant la clarté, en fait, de la distinction entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève de l'atteinte à autrui, que ce soit par la diffamation, par l'incitation à la haine ou par l'insulte à caractère racial. Typiquement, parmi les débats qui ont lieu sur ces questions, la question des critères, certaines personnes qui se considèrent comme particulièrement libérales vis-à-vis de la liberté d'expression diront que elles sont d'accord pour interdire ce qui porte atteinte directement à autrui, typiquement la diffamation ou l'incitation à la haine, mais sont plus mesurées ou sont plus rétives pour ce qui est de l'interdiction des propos à caractère raciste ou homophobe ou antisémite dès lors qu'il n'y a pas d'incitation à la haine. Non pas parce qu'elle valide ses propos, mais parce que, disent-elles, je précise que c'est pas ma position.
Hein. Oui, j'entends bien, Marie-Lyne.
Parce que, justement, première raison, qui est une raison, disons, pour selon elle, de fond, du moment qu'il n'y a pas d'incitation à la haine, il n'y a pas d'attaque directe envers une personne déterminée. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est l'un des arguments. Et deuxièmement, surtout, argument cette fois plus pragmatique, le problème, c'est le fait que lorsqu'on censure des propos racistes, premièrement, les personnes qui les tiennent trouvent toujours une autre manière de les exprimer, généralement sur Internet, via des sites qui sont très difficiles à réguler, en passant par divers proxys. Et deuxièmement, elles jouent justement de cette notion de censure en disant, vous voyez, quand on tient ce discours, les autorités ou la pensée dominante veulent nous empêcher de les tenir, ça prouve bien que. Et ça, effectivement, c'est un dilemme qui se repose régulièrement, qui s'est posé notamment au moment de l'interdiction des spectacles de Dieudonné, où la question c'était de...
Marie-Lyne Maezo, pardon de vous interrompre, et c'est pas une question de liberté d'expression, simplement de moyens techniques pour nos auditeurs. Nous sommes en direct, mais malheureusement pas en présence l'un des autres. Donc si vous pouvez malheureusement moins bouger devant votre micro, vous rapprocher de votre micro, on vous entendra parfaitement comme c'était le cas auparavant. Est-ce que vous m'entendez, Marilyn Maezo?
Oui, oui. Je vous entends très bien.
Alors,
vous m'entendez?
Oui, parfaitement. Du coup, je reviens sur le début de votre intervention qui m'a beaucoup frappé et on en reparlera aussi avec Charles Girard dans un instant. Quand vous disiez finalement, certaines personnes disent, au fond, et ça fait penser à des propos très simples, très courants, je ne suis pas raciste, ou bien je suis raciste, mais ça n'est pas forcément une incitation à la haine. Est-ce que ce que disait Charles Girard, au fond, ça n'était pas justement, je ne vais pas parler à sa place, hein, il va le dire lui-même, mais est-ce que ça n'était pas, dès qu'on est raciste, on est dans l'incitation à la haine, même si on ne dit pas il faut les tuer, il faut les piétiner, dès qu'on est dans l'assignation à une identité avec un caractère de catégorisation sociale et de critique, on est déjà dans la haine. La haine a ici un sens juridique, ça n'est pas, même si vous ne la ressentez pas comme une sorte de fureur destructrice, est-ce qu'on n'est pas quand même, Marilyn Maezo, déjà dans ce que Charles Girard décrivait?
Totalement, mais je pense que pour le comprendre, il faut se placer non pas simplement dans une perspective juridique, mais dans une perspective linguistique. Mmh. Les personnes qui considèrent que du moment qu'on ne dit pas, pardonnez mon langage, mort aux Arabes, ou mort aux PD, ou mort aux Juifs, on n'est pas dans l'antisémitisme, l'homophobie, et le racisme, ce sont des personnes qui ignorent sciemment ou pas le fonctionnement du langage et la force de l'implicite. On n'a pas besoin d'inciter explicitement à nuire à quelqu'un pour lui nuire. De manière très simple, je vais prendre un exemple concret. Lorsque, par exemple, vous opposez au mariage gay, l'argument que vous prenez, c'est de dire que le fondement de la société, c'est le mariage hétérosexuel et que du coup, les homosexuels qui veulent également y accéder ont pour ambition de saper les fondements même de la société et de créer le chaos, vous êtes en train de les décrire comme des menaces. On ne peut pas après ignorer le lien entre cette manière de décrire ces personnes et les attaques qu'elles subissent au quotidien. Donc je pense qu'effectivement le problème c'est que, et c'est pour ça que je rejoins mon collègue, sur le plan des principes c'est parfaitement clair et c'est pour ça qu'il faut les répéter inlassablement, mais dans la pratique, si vous voulez, il y a une multiplicité de techniques oratoires qui sont mises en place pour essayer justement de brouiller les pistes et pour essayer de créer des fausses distinctions de manière à laisser passer des appels à la haine qui sont tout aussi dommageables que des propos haineux qui sont tout aussi dommageables que des appels explicites à la haine.
De masquer la haine au fond sous une rhétorique qui semble dépourvue de cet affect. Charles Girard, je pense que vous serez d'accord avec cette analyse dans vos articles aussi. Pas entièrement, mais je précise juste ma question. Dans vos articles, vous employez bien la question de la nuisance. C'est-à-dire, au fond, la haine, c'est l'appel, ça nuit à autrui, alors que pour vous, finalement, l'atteinte à la sensibilité ne peut pas être définie juridiquement comme un tort. Mais peut-être que je me trompe, vous voulez préciser quelque chose, Charles Girard.
Oui, parce que je pense qu'on mélange souvent deux idées. Le racisme en lui-même n'est pas un délit. C'est-à-dire, le fait d'avoir des croyances ou des opinions racistes n'est pas puni par la loi. C'est pas un délit d'opinion. C'est pour ça que le slogan, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ou c'est un crime, me paraît pas très bien formé. C'est-à-dire que si vous allez sur France Culture et que dans un effort d'aveu, en faisant l'analyse de vous-même, vous confessez que vous pensez que vous avez des préjugés vis-à-vis de tel ou tel groupe défini par des critères ethniques, raciaux, religieux, nationaux, vous ne serez pas puni pour autant. Ce qui est puni, c'est l'acte qui consiste porter atteinte à l'honneur, à la réputation ou à exposer comme une cible pour la violence ou la discrimination. Donc pour le dire simplement, encourager par vos propos le racisme est puni. Mais ça, vous pouvez être puni pour cela sans être du tout raciste vous-même. Il y a plein d'usages absolument instrumentaux, cyniques, calculateurs aussi des discours racistes. Donc c'est l'acte d'expression qui ne fait pas que communiquer une opinion personnelle, mais qui consiste à provoquer un certain type d'attitude vis-à-vis des personnes qui sont visées, c'est cela qui est pénalisé. C'est très important, parce que c'est pour ça que ce terme « discours de haine » il s'est imposé, mais il n'est pas très bien formé. Le problème n'est pas du tout la haine ressentie par la personne qui parle. C'est un problème moral, c'est un problème social, mais le droit ne va pas fouiller les cœurs pour aller voir qui est réellement raciste ou pas, non. Donc c'est pas l'opinion, c'est vraiment le discours de provocation à la haine sous ses différentes formes, notamment injurieuses et diffamatoires. Par contre,
c'est quand même un peu l'opinion, Charles Girard, parce que quand même quand il y a au début des réflexions sur la question juive, par exemple, Sartre dit très clairement, certains ont l'opinion qu'il faut exterminer tous les juifs. Le terme d'opinion laisse rêveur, dit ici Sartre. On peut quand même être d'accord sur le fait que l'opinion au sens d'une sorte de point de vue, voire de pathologie intime, est ici un peu léger comme catégorie.
Bien sûr, mais justement, il y a deux questions. Il y a la question de ce que le droit punit, parce qu'il y a la question de ce sur quoi il a prise et ce sur quoi il devrait avoir prise. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser à la puissance étatique le pouvoir de décider si votre opinion est suffisamment une opinion pour être protégée ou si elle mérite d'être punie en tant qu'opinion. Et puis il y a la question distincte de la compréhension qu'on a des mécanismes psychologiques, linguistiques et sociaux du racisme. Ce que je veux dire, c'est que notre compréhension du continuum entre des croyances, des actes d'incitation et leurs effets dévastateurs et parfois meurtriers, peut pas signifier que le droit s'applique à tous ces niveaux, de ce qui se passe dans la conscience, à ce qui se passe dans le discours, à ce qui se passe ensuite dans des actes parfois violents ou meurtriers. Tout ça ne peut pas être traité de la même manière. Et par contre, ce qui est vrai, et je pense que c'est à ça qu'il était fait, dont il était question tout à l'heure, c'est que ça ne veut pas dire que la provocation à la haine doit être explicite ou théorisée comme telle pour être punissable. Des dessins sans légende, des fausses plaisanteries qui n'en sont pas, des sous-entendus suffisamment explicites, des gestes symboliques dont la signification est suffisamment arrêtée pour les publics concernés. Tout cela peut, dans leur contexte, parfois être interprété comme constituant une forme d'incitation à la haine. Mais là, à mon avis, on touche au point qui est crucial et qui explique le fait que cette distinction soit souvent mal comprise ou qu'elle paraisse abstraite ou parfois même pour certains hypocrite. C'est que les distinctions sont claires, mais le travail d'interprétation d'actes, d'expressions particuliers, de gestes, d'images, de verbes, dans leur contexte, dans leurs circonstances, ça demande un effort d'interprétation et ça demande de connaître le contexte où ces gestes sont effectués, où ces discours sont prononcés, où ces images sont diffusées.
C'est très important, Charles Girard, et on va y revenir dans un instant. La liberté d'expression comporte des limites très fortes, très claires, très rigoureuses, et aussi des institutions pour les appliquer, finalement. Et entre les deux, il y a toute la pratique du langage humain. On n'est pas démunis. Ceux qui pensent que il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, on voit bien qu'il y en a. La question, c'est aussi comment les appliquer, comment ne pas se tromper de limite. On y revient dans un instant, mais Marilyn Maezzo, elle aussi, nous propose un morceau de musique pour jalonner la conversation, dont elle nous dira après le lien avec cette conversation elle-même.
You're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding.
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, la liberté d'expression sur la crête de la démocratie, une crête où nous cheminons avec deux guides, Marilyn Maezzo et Charles Girard. Marilyn Maezzo qui nous propose ce morceau que nous sommes en train d'entendre et au titre lui aussi emblématique, Read All About It, lisez tout, j'imagine qu'on peut le traduire comme ça, tout ce qui vous tombe sur la main sur ce sujet, lisez les livres sur la liberté d'expression, lisez aussi les textes sur les enjeux contemporains. Marilyn Maezzo, on vient de parler avec Charles Girard et on va y revenir de l'application des principes qui fondent et qui limitent légitimement la liberté d'expression. Vous-même, vous le disiez un peu comme Camus, vous pensez sans doute que les principes sont clairs finalement, mais qu'une fois qu'on les a énoncés, il faut les appliquer. Et un peu comme Camus disait dans le mythe de Sisyphe, ben voilà, il y a la philosophie de l'absurde, c'est assez simple à comprendre, même si beaucoup ont fait des contresens depuis. Maintenant, il faut la mettre en œuvre aussi dans la littérature, dans la politique. Est-ce que vous n'avez pas justement fait le choix plutôt que de la théorie, maintenant de l'intervention dans le cœur de la liberté d'expression, dans ses dérives, dans ses pathologies. Comment est-ce que vous appliquez ces limites vous-même dans votre travail un peu polémique aussi, enfin, si j'ose dire, en tout cas d'intervention dans le débat public, Marilyn Maezo?
En fait, je peux pas vraiment dire que j'ai fait le choix de la pratique plutôt que de la théorie parce que je suis un peu à cheval sur les deux. Hein. Je continue à travailler. Je suis actuellement en train je commence un nouveau travail de recherche. Donc, si vous voulez, je pense pas que l'un peut aller sans l'autre.
D'accord.
Simplement, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie d'un lieu qui était un lieu de recherche. J'étais doctorante et je me suis retrouvée enseignante au lycée. Donc, je me suis retrouvée au cœur de la pratique, de la réalité, et j'ai dû donc tenir compte disons du décalage entre ce qui me paraissait très clair conceptuellement, la limpidité des principes, et puis les difficultés qu'on pouvait rencontrer pour à la fois les mettre en application et puis les transmettre, les faire comprendre aux personnes
concrètement, à des élèves, à des interlocuteurs,
des élèves qui n'ont pas forcément les mêmes lectures, qui n'ont pas forcément encore la même maturité intellectuelle, ou qui sont pas forcément tout simplement au courant et qui ne disposent pas des mêmes outils. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été particulièrement touchée par ce qu'a dit Charles Girard au sujet de l'importance de la contextualisation.
Ouais.
Puisqu'on parlait des fameuses caricatures qui ont fait couler malheureusement à la fois beaucoup d'encre et beaucoup de sang, c'est un point qui se présente de manière particulièrement forte lorsqu'il s'agit des caricatures, notamment je pense à celle de Charlie Hebdo. Très régulièrement, que ce soit avec des élèves ou avec des adultes, on a des débats houleux, voire des polémiques autour de ces unes de Charlie Hebdo où on y lit absolument tout et n'importe quoi. Je prends un exemple concret parce que c'est celui qui revient de manière assez systématique. On me montre la une de Charlie Hebdo où on voit Hitler en train de danser, où il y a écrit « Hitler super sympa » et Hitler dit « Salut les youpins, ça gaz ». Et on y voit typiquement une sorte d'humour antisémite totalement désinhibé. Or, cette une, on ne peut pas la comprendre si on ne la replace pas dans le contexte de sa publication, puisque Charlie Hebdo est un journal qui dessine sur l'actualité. Si on rappelle aux élèves ou aux personnes qu'on a en face le contexte, à savoir que cette une arrive juste au moment du début des procès Faurisson, et donc pose la question du négationnisme, mais qu'elle réagit tout particulièrement à un entretien qui avait été donné et qui avait pour titre « À Auschwitz, on a gazé que les poux »,
ah oui.
Donc un entretien avec un propos
phrase de Faurisson, le négationniste, oui.
Exactement, et là on comprend tout de suite que le dessin est un dessin ironique dont le message est très clair, c'est « Mais bien sûr, Hitler était quelqu'un de très sympa, il a fait de mal à personne ». Mais vous voyez, ça, ce travail-là de recontextualisation et d'analyse des dessins, c'est un travail qui implique d'avoir à disposition un certain nombre d'outils, d'accepter de prendre du recul, d'accepter de prendre le temps de comprendre avant de juger et d'exprimer une opinion tranchée. Et ça, c'est quelque chose, je tiens à le préciser, qui passe très bien, par exemple, à l'école, parce que le contexte s'y prête, parce qu'on est en classe, parce qu'on est là pour ça, justement, comprendre, apprendre, défaire des préjugés ou renforcer des convictions en fonction. Et c'est quelque chose qui passe beaucoup moins facilement dans le débat public quand vous êtes sur un plateau, que le temps est limité, que la personne en face vous laisse pas forcément vous exprimer comme vous le voudriez. Mais je pense que c'est un travail qui est absolument indispensable et qui mériterait d'être généralisé en dehors simplement de l'école. Je pense qu'on éviterait beaucoup de malentendus et de ce fait même beaucoup de blessures ou beaucoup de sentiments d'être insulté, d'être malmené ou d'être mal compris si on avait on mettait à la disposition de tout le monde ces outils et ces connaissances pour décrypter des dessins qui ont une histoire. Et puisqu'on parle d'histoire, c'est aussi un autre point que j'ai été amenée à évoquer dans le contexte de ce qui est arrivé à mon collègue Samuel Paty. Lorsqu'on considère que les caricatures du prophète sont des provocations qui visent à blesser, et en l'occurrence à blesser les musulmans. Plutôt que de s'arrêter, si vous voulez, à cette lecture qui est sans fond et qui est sans contexte, si devant des élèves, devant des jeunes, vous rappelez l'histoire de la caricature, la manière dont elle s'oppose, elle exprime une voix d'opposition vis-à-vis du pouvoir, qu'il soit politique ou religieux. Si vous expliquez que typiquement en France, la caricature a une longue histoire avec la religion, que c'est pas pour rien que la religion qui est d'un point de vue quantitatif la plus caricaturée par Charlie Hebdo, c'est catholicisme, parce que le catholicisme a été religion d'État en France.
C'est dominant.
Si vous expliquez tout ça aux élèves, en fait, que vous leur expliquez que le but c'est pas de blesser des individus, mais que c'est d'exprimer une voix en fait qui s'oppose à un pouvoir qui peut être oppressif, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, ça change totalement la donne du jour au lendemain.
Alors, ce qui est très frappant, Marilyn Maezo, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut créer des contextes pour se donner les moyens d'analyser le contexte, c'est-à-dire le contexte scolaire, une institution comme celle, comme l'école, peut-être aussi comme la presse, mais qui a le langage aussi pour critiquer ou discuter le contexte des images. Il faut se donner donc ces contextes-là pour accéder à cette finesse du cas singulier dans son contexte. Charles Girard, vous-même, donc c'est un des éléments, en effet, le contexte que vous mettez en avant dans votre analyse des limites de la liberté d'expression et de leur application concrète. Il y a l'école, il y a aussi des institutions dans les démocraties. Vous travaillez sur la démocratie délibérative. Il y a aussi des institutions comme les divers cercles politiques. Il y a aussi finalement le tribunal à la fin des fins. Il y a un système d'institutions finalement sans lesquelles la liberté d'expression ne peut pas s'appliquer, ne peut pas se comprendre. Charles Girard.
Oui. Enfin, il y a un ensemble d'institutions sans lesquelles l'expression elle-même, indépendamment des questions de droit, ne peut pas se comprendre. C'est-à-dire que un mot ou une image prend des sens qui sont distincts dans un environnement différent. Et la signification, elle ne vient ni de la manière dont c'est compris immédiatement par la personne qui rencontre cette image, parfois dans un contexte complètement distinct de son contexte d'origine, ni même d'ailleurs de l'intention de la personne qui a fait le dessin ou qui a écrit le texte et qui peut avoir dit autre chose que ce qu'elle voulait dire. C'est un mélange entre ce qu'est l'objet, la représentation picturale ou l'ensemble de mots mis bout à bout, et les circonstances dans lesquelles se rencontre l'intention de l'auteur et puis le public du cas de dénonciation. Ce qui veut dire qu'en fait, le même dessin ou le même discours, la même phrase sortie de son contexte, c'est un phénomène que tout le monde connaît, ça, peut dire une chose ou dire quelque chose de complètement différent, voire même de contradictoire. Alors ça crée une tâche immense pour les éducateurs, à l'école, bien sûr, à l'université. C'est d'après tous les témoignages qu'on a eu très émouvant d'élèves de Samuel Paty, c'est exactement le genre de travail auquel il
menait concrètement,
de se consacrer et qui lui a coûté la vie. Mais c'est aussi un travail qui est nécessaire dans toutes les autres institutions sociales. J'ai été assez surpris par des commentaires cavaliers dans l'espace public, de commentateurs, d'intellectuels, disant « Oui, la une de Cabu est formidable, mais l'autre image, il n'aurait pas dû la montrer. L'image de Coco qui monte Mahomet, nu, son organe génital visible, avec marqué une star aînée, il n'aurait pas dû le faire, parce que là, c'est vraiment une attaque contre les musulmans, ou c'est vraiment une attaque contre l'islam, ça se voit. » Sauf que, bon, on peut trouver ce dessin très drôle ou affligeant, on peut le trouver inventif ou pathétique, on peut le trouver très courageux ou irresponsable, peu importe. Aucune de ces réactions immédiates ne peut tenir compte d'un travail d'interprétation. Et donc ça veut dire dans quel contexte, que signifiait là où il est apparu cette image. Et donc en l'occurrence, c'était une réaction à des assassinats et des attentats qui s'étaient produits en Libye, dans d'autres pays, suite à la diffusion d'un film qui critiquait de manière véhémente l'islam. C'est une réponse à ça. C'était dans une double page où il y avait un autre dessin qui était titré « Un film con sur l'islam met en rage les intégristes ». Donc le personne...
Tout le monde en prenait pour son grade.
Il faut qu'on puisse être libre d'aimer... Ouais. On peut être libre d'aimer ou de ne pas aimer, voire même de détester les caricatures de Charlie Hebdo. En fait, ça n'a aucun rapport avec la question des limites de la liberté d'expression et du type de réaction politique, sociale qu'appellent les attaques terroristes. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est les malentendus sincères, en partie, mais aussi le travail très conscient de manipulation, de transformation du sens, qui fait qu'un message diffusé dans un contexte précis peut se retrouver... à un autre moment, plusieurs mois ou plusieurs années après, souvent dans d'autres pays, dans un autre contexte culturel, ce qui évidemment facilite des malentendus et des lectures contradictoires, à signifier tout autre chose.
Mais alors,
on sait qu'entre la publication initiale des caricatures au Danemark et les grandes manifestations de protestation dans plusieurs pays à majorité musulmane, il s'est écoulé plusieurs mois et que des acteurs ont fait circuler ces dessins, souvent en les mêlant à d'autres dessins très différents, infiniment plus violents, pour attiser une mécompréhension qui a eu des effets et qui continue à avoir des effets meurtriers.
Mais alors donc, effectivement, il y a aussi des contextes d'usage, et pas seulement des contextes pédagogiques, mais des contextes politiques, parfois de manipulation. Le temps passe vite, Marilyn Maeso et Charles Girard, j'aurais une question sur un autre angle, finalement, une autre dérive aujourd'hui de la liberté d'expression, non pas peut-être des limites abusives venues d'autres contextes et qui viennent empêcher de penser les limites légitimes de la liberté d'expression, mais plutôt cette revendication qu'on entend beaucoup aujourd'hui, par exemple dans le débat politique aux États-Unis, mais aussi en France, finalement, d'une absence de limite, d'une liberté d'expression sans limite, qui du coup semble autoriser les discours justement les plus violents, et cela au nom de la liberté d'expression, d'une liberté d'expression que certains, que des théories du complot justement pensent limitée par des intentions malfaisantes. Comment est-ce que vous voyez cette autre forme de dérive, cette dérive au fond, qui de façon... apparemment, en tout cas, se réclame de la liberté d'expression. Charles Girard, peut-être d'abord, et puis Marilyn Maeso ensuite.
Il y a plusieurs choses. Il y a des formes d'usage de la liberté d'expression qui visent effectivement à intimider ou à faire taire, à réduire au silence, à impressionner ou qui poussent au conformisme. Enfin, donc, il y a toutes sortes d'usages de la liberté d'expression qui sont légales et qui devraient le rester parce qu'on ne veut pas que le juge décide. Sur des bases arbitraires ou que n'importe quelle majorité d'élection en élection puisse décider que tel ou tel type d'opinion ou de critique véhémente passerait les bornes. Donc il y a des raisons de ne pas vouloir réprimer cela. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des formes d'usage de la liberté d'expression qu'on peut trouver ne pas être noble, voire être ignoble. Maintenant, il faut aussi se méfier d'un discours qui consiste à ériger toute critique en censure dont on serait l'objet. C'est une différence entre la critique, même impressionnante, et la censure d'État.
C'est vrai. Marilyn Maeso, le temps passant vite, malheureusement. Votre sentiment aussi sur ces autres dérives que vous étudiez aussi dans vos interventions?
Très rapidement, sur la revendication d'une liberté d'expression absolue et sur la formule qui ressort souvent, on peut plus rien dire dès que quelqu'un émet une critique, qui est très drôle, hein, parce que généralement elle est prononcée par des personnes qui peuvent dire absolument tout sur tous les plateaux à toutes les heures. Mais bref, je pense qu'il y a un problème fondamentalement de spatialisation peut-être qui se pose dans cette vision abstraite de la liberté. Quand on dit que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, si vous voulez, on le voit bien lorsqu'il s'agit d'action. Par exemple, on voit bien que ma liberté d'écouter de la musique tard, elle est limitée par la liberté des autres de dormir, par exemple.
Marilyn Maeso, je suis obligé malheureusement de limiter votre liberté. Le temps nous a rattrapés. Je vous remercie infiniment l'un et l'autre. Et nous avons atteint une très belle limite de cette discussion. À présent, ce soir, c'était la liberté d'expression sur la crête de la démocratie avec nos deux guides, Marilyn Maeso et Charles Girard, avec et grâce aussi à Jean-Ghislain Meige, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Yanis Djoudad, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.